Alors, il y aura aussi un petit volet technique parce que pour ceux qui connaissent plus ou moins bien Ecart, en fait, j'ai le montage que vous avez vu certains l'an dernier, mais la différence, c'est qu'il y a énormément de vues d'Erfurt maintenant, de Colmar, donc il est enrichi, il doit passer de 30 à 120 vues, mais il faut voir techniquement un vidéoprojecteur, etc. Voilà. Donc ça, on va résoudre les problèmes après. Alors, oui. Le frère ami doit les amener. Oui. Parce que là, moi, j'en ai tiré 20. On m'a dit au départ que vous étiez 17. Donc j'ai dit 17, j'en tire 20. Mais apparemment, vous êtes 24. Alors, le granum, tout le monde doit l'avoir parce qu'il y en a 30 exemplaires. Hein. Donc celui-là, il n'y a pas de problème. Mais les autres, il y a 4 exemplaires qu'il est parti faire. Même 5, je pense, parce qu'il a pris un exemplaire, donc il y en a 5 qui manquent. Alors, sinon, vous pouvez vous dire, c'est pas très logique qu'on ait commencé par Tauler et qu'on continue avec Ecart. Voilà, alors il y a des affaires de train, certes, mais il y a aussi, merci beaucoup, une autre question, c'est que la Trinité est quand même ce qu'il y a de plus difficile, et commencer par Ecart, vous risquez d'être noyé. Donc, pédagogiquement, commencer par Tauler, par l'art, par les Vierges ouvrantes, c'est très bien. Et si c'est possible, cet après-midi, je vous passerai aussi un montage sur les différentes représentations de la Trinité à l'époque. Si on a le vidéoprojecteur. Alors, déjà, pour situer les choses, on peut dire que ce mystère d'amour qu'est la Trinité marque l'originalité du christianisme par rapport aux autres monothéismes. Le christianisme est un monothéisme trinitaire, mais c'est aussi un paradoxe de dire Dieu est un et il est trois. Comment peut-on concevoir cela, je dirais, comment un peut-il être trois? À vue humaine, c'est tout à fait impossible, et cela défie les lois des mathématiques, et même quelqu'un comme Nicolas de Cuse, qui a repris la pensée des cartes dans la coïncidence des opposés, ne peut pas justifier 1 égale 3. Alors, en fait, c'est qu'il y a l'unité de la nature de Dieu, mais la trinité des personnes, et cela montre que notre Dieu n'est pas un principe abstrait, mais un foyer d'amour et de vie. Alors, bien sûr, les mystiques rénans, que ce soit Eckhart, Tauler et Suzeau, n'ont pas été les premiers à le dire, mais avant eux, les pères se sont attachés à montrer justement que Dieu est un et trois. Et justement, on peut dire que les mystiques rénans ont bénéficié de l'acquis justement des pères. C'est-à-dire que dans les premiers siècles, les pères ont réfléchi sur les théophanies trinitaires, les manifestations de la Trinité dans la Bible, et ils ont, à partir de là, développé leur théologie trinitaire. Et les médiévaux ont repris le rapport, et Bernard de Chartres, au XIIe siècle, dit que les médiévaux sont comme des nains sur les épaules des géants, c'est-à-dire ils voient plus loin. Mais parce que les géants ont déjà fait le travail. Alors justement, si on prend Eckhart, il propose une magistrale synthèse trinitaire dans son œuvre. Mais on pourrait dire, comme saint Thomas, il fait ressortir que tout vient de la Trinité et tout y retourne. Et la prédication d'Eckhart, comme celle de Jean Tauler, va s'articuler autour de la Trinité. Le frère Rémy vous a dit que les sermons de Toller partaient de la Trinité et la fête de la Trinité a été instituée après la vie des cartes, mais pendant la vie de Toller. On reprendra cette question. Donc, les sermons Descartes s'articulent autour de la Trinité et Descartes va en préciser le sens dans les sermons latins 2 et 4. Et justement, les textes que vous avez, ce sont les sermons latins 2 et 4 qui, jusqu'ici, n'étaient pas traduits. Et vous avez là une traduction originale pour certains d'entre vous par Jean de Vrint que vous avez vu il y a 3-4 ans, je ne sais plus exactement. Et c'est lui qui a réalisé cette traduction, mais c'est pour l'instant une traduction non encore publiée. Elle va l'être, c'est sous presse, mais c'est encore une traduction qui demande peut-être à être un peu revue, mais vous avez tout à fait le texte accessible, autrement vous ne l'auriez pas. Donc dans ces sermons latins 2 et 4, Eckhart essaye de rendre compte de la vie de la Trinité. De la Trinité en elle-même, ce qu'on appelle en théologie la Trinité immanente. Et c'est en raison de son expérience qu'il peut en rendre compte. Alors là, je m'arrêterai un petit moment. C'est-à-dire, Eckhart est un très bon théologien médiéval. Il connaît parfaitement ses gammes théologiques. Il connaît parfaitement la théologie trinitaire. Mais problème, c'est que la théologie trinitaire, ça peut être une très belle pièce d'orfèvrerie. On peut voir le rapport entre les personnes, l'unité, les processions, etc. Et en fait, Eckhart a ceci d'original, qu'il part d'une expérience trinitaire. Alors, la difficulté avec lui, c'est qu'il ne parle jamais de sa vie, mais il est reconnu comme un mystique. Il a été reconnu comme un mystique dès sa vie et ensuite au XIXe siècle par Franz von Baader. Or, sa mystique est une mystique trinitaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que lui-même est allé au cœur de la Trinité. Alors, comment faire ça, je ne peux pas vous dire. Mais il y a cette idée qui affleure, vous le verrez, dans le sermon 4 et aussi dans le sermon 71, où il évoque son expérience à travers celle de saint Paul sur le chemin de Damas. C'est-à-dire que lui-même a une expérience de Dieu, mais une expérience du Dieu Trinité. Alors, peut-être certains d'entre vous ont-ils lu la vie de saint Benoît par Grégoire le Grand dans les dialogues. Or, saint Benoît a eu une expérience, lui, de la création, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à la fin de sa vie, il a vu toute la création résumée dans un rayon de lumière. Eckhart, ça n'a pas été pareil, c'était pour la Trinité. Mais on a l'impression qu'il a été introduit au cœur de la vie trinitaire. Et d'ailleurs, à la fin des sermons 101-104, il dit « Entrons dans le silence de la vie trinitaire » et il invite à une expérience analogue. Alors, c'est à la fois l'intérêt, mais aussi la difficulté de sa pensée. C'est l'intérêt parce qu'il va très loin, et plus loin que les autres. C'est la difficulté parce qu'il n'en dit rien. Donc, on est amené à dire « peut-être cet élément nous permet d'en conclure que… » Mais ce n'est pas très facile à ce niveau-là. Donc, tout ce qu'on peut retenir, c'est que son expérience, il la relie à travers l'évangile de saint Jean, et il faudrait aussi parcourir dans son ensemble, son commentaire de l'évangile de saint Jean, comble de chance, il n'est pas traduit non plus. Donc, j'en retiendrai certains passages pour notre journée. passage que je vous aurai traduit pour l'occasion, parce que là, on est devant un texte magnifique, mais qui est encore un peu difficile d'accès. Donc, son expérience, il la relie à travers l'évangile de Saint Jean, et cette expérience lui montre que par le Fils, par son engendrement perpétuel par le Père et par sa naissance constante en nous, la Trinité, à l'image de laquelle nous sommes créés, nous introduit dans sa vie et réalise progressivement la vie nouvelle. C'est-à-dire que là, c'est tout à fait intéressant. Eckhart a eu l'expérience de la vie trinitaire. Lui-même dit cette expérience très forte et bien sûr unique, mais il la partage, il dit cette expérience est pour tous. Le Christ est venu nous parler du Père, il nous envoie son esprit, il nous introduit dans la vie trinitaire, et en plus, nous sommes créés à l'image de la Trinité. Donc cette expérience qu'il a eue n'est pas seulement pour lui, mais aussi pour nous, pour que justement on soit introduit à cette création nouvelle. Alors, bien sûr, les textes sont parfois difficiles, le vocabulaire de l'époque nous est un peu étranger, mais on pourrait dire que malgré le vocabulaire, sa théologie trinitaire pourrait se résumer par une phrase de Karl Rahner qui disait que la Trinité n'est pas un subtil jeu d'esprit théologique, mais un énoncé qu'on ne saurait absolument pas éluder, et qui signifie que Dieu lui-même, comme le mystère sacré permanent, comme la base incompréhensible de l'existence transcendante de l'homme, n'est pas seulement le Dieu d'infinie distance, mais veut être le Dieu d'absolue proximité en autocommunication vraie. Alors, ce qui est tout à fait intéressant pour Rahner, c'est que justement la Trinité n'est pas un jeu subtil de théologie, mais c'est le mystère même d'amour de Dieu qui se communique et qui se communique par le Fils. Un grand merci.
D'accord. Et il y a quelques copies aussi.
Oui, 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 ben il en manquait, donc c'est très bien. Donc là, on peut voir aussi, à partir de la phrase de Rahner, l'actualité du propos Descartes. C'est-à-dire, ce qu'il a écrit au XIVe siècle n'est pas à mettre sur un rayon de bibliothèque, mais c'est quelque chose qui nous touche et qu'on peut relire différemment. Alors, bien sûr, avec Rahner, on a le terme d'autocommunication, c'est-à-dire Dieu qui se donne lui-même. Le terme est difficile, mais la réalité comme telle est tout à fait accessible. Et ce qu'il dit, c'est que, justement, le Dieu d'infinie distance veut être le Dieu d'absolue proximité. C'est-à-dire que le mystère de la Trinité nous semble très lointain, une distance très lointaine, mais en même temps, il est tout à fait proche de nous. Et c'est justement tout le sens de la filiation divine qui est au cœur de la vie Descartes. Alors, bien sûr, Eckhart est un spéculatif, et il envisage les choses de manière spéculative, mais sa dialectique n'est quand même pas la dialectique d'Hegel. C'est beaucoup plus l'expérience de la kénose, du sens de l'incarnation. Dieu se fait homme pour que l'homme participe à la vie de Dieu, comme le disait saint Irénée ou saint Athanase. On comprend alors pourquoi il importe aujourd'hui de retrouver le mystère trinitaire comme mystère central de l'expérience chrétienne, parce qu'il y a eu tout un oubli de la Trinité. Or, la Trinité, c'est véritablement le mystère central de l'expérience chrétienne, et de montrer à quel point la Trinité illumine et transfigure le monde à travers la communion de l'Église. Et il en va de la dynamique même de la vie et de la relation à Dieu. Alors, bien sûr, on est plus familier avec le Christ, souvent, mais le Christ nous amène vers le Père, et c'est son esprit qui nous amène vers lui. Donc, il y a les trois qui, justement, agissent en même temps. Alors, le frère Rémy vous a parlé de Jean Tolère. On pourrait aussi parler d'un troisième parmi les mystiques rhénans, Henri Suzeau. Suzeau qui exhorte lui aussi à la filiation divine avec une méthode pédagogique comme Jean Tolère, en ayant recours aux images, et il invite à passer de la représentation qu'on a de la Trinité à la vie même de la Trinité pour devenir par grâce, dit-il aussi à la suite de Maxime le Confesseur, ce que Dieu est par nature. Donc on peut dire qu'il y a toute une convergence, Eckhart, Jean Tolère, Henri Suzeau, et au siècle suivant aussi Nicolas de Cuse, de l'autre côté, c'est-à-dire sur la Moselle cette fois, Nicolas de Cuse qui lui-même donne une autre expression de la théologie trinitaire. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que leurs écrits, aussi bien Eckhart, Tolère, Suzeau que Nicolas de Cuse, sont tout à fait importants par eux-mêmes, parce qu'il y a une investigation trinitaire très grande, mais en même temps, leur dynamique est essentielle pour nous et nous permet de redécouvrir le mystère trinitaire. C'est-à-dire que, en quelque sorte, toute l'existence chrétienne est envahie par le mystère trinitaire, non seulement sur le plan de l'expérience personnelle, mais aussi sur celui de la vie ecclésiale et sociale. Et là, je reprendrai une réflexion de Bruno Forte qui disait que ce n'est pas un hasard si l'exil de la Trinité, de la théorie et de la praxis des chrétiens s'est reflété par le visibilisme et par le juridisme souvent présent dans la conception de l'Église et a eu des conséquences sur le plan socio-politique. C'est-à-dire que c'est vrai que s'il n'y a plus cette dynamique souple trinitaire, ça va être surtout l'institution, le visibilisme ou le juridisme qui vont prendre la place. Et par conséquent, dit-il, le retour à la patrie trinitaire se révèle prometteur autant pour l'ecclésiologie que pour la situation globale du christianisme. Ce retour est peut-être le défi le plus brûlant lancé à l'Église et à la théologie. Et ce défi, au XIVe et au XVe siècle, les mystiques rhénans et Nicolas de Cuse l'ont justement relevé. Et vous en avez déjà eu une idée. Alors, est-ce qu'il y a des questions de manière générale ou pas?